Par actualité. Bienvenue à l'émission Les Paractualités du 18 septembre 2017. C'est Hélène Denis qui vous accompagne et en manchette aujourd'hui un amputé souvent insulté pour sa vignette de stationnement. Aussi, louer des jouets, y avez-vous déjà pensé? Hausse des tarifs du transport en commun de Baie-Comeau. Plus d'un an sans ORL dans la péninsule et la région chaleur au Nouveau-Brunswick. En entrevue, je reçois Gaëlle Ouellette, directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines, qui vient nous parler du film « Et les Mistral gagnants ». Et aussi, je m'entretiens avec Jean-Marc Laforêt, agent de mobilisation au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord. C'est une nouvelle qu'on pouvait lire dans le Journal de Montréal de ce matin. Un amputé souvent insulté pour sa vignette de stationnement écrite par une nouvelle écrite par Hugo Duchesne. Un Montréalais amputé de la jambe droite n'en peut plus des regards accusateurs et des remarques blessantes qu'il reçoit presque chaque fois qu'il gare sa voiture dans un espace réservé aux handicapés parce qu'il n'a pas l'air de souffrir. Ça me ferait plaisir de ravoir ma jambe et de me stationner 20 espaces plus loin. Aucune personne handicapée ne se sent VIP parce qu'elle est stationnée près de la porte, dénonce Daniel H. Lantaigne. L'homme de 30 ans détient une vignette de la Société de l'assurance automobile du Québec depuis l'âge de 4 ans quand un accident de tracteur lui a coupé une partie du pied. Puis, à 15 ans, il a dû être amputé sous le genou à la suite d'une grave infection causée par la bactérie mangeuse de chair. « Dès que je me mets en jeans, mon handicap devient invisible », dit-il. Mais même caché, sa prothèse lui fait mal après de longues marches. Aujourd'hui, directeur général de la Fondation Réa, vouée à la réadaptation des personnes handicapées, il a l'impression que les Québécois sont en train de virer fous avec les stationnements réservés aux handicapés. « Tout le monde me challenge, me demande pourquoi j'ai une vignette si je la mérite. Un policier m'a même dit qu'elle semblait facile à obtenir si j'en avais une. Il y a un manque de respect », remarque M. Lantaigne. Daniel H. Lantaigne ne compte plus le nombre de fois où il voit des personnes garées illégalement dans des espaces de stationnement réservés aux handicapés et qui lui font un doigt d'honneur s'il leur demande de se déplacer. Il tient à rappeler que ces places doivent servir à des personnes vulnérables dont c'est la santé qui est mise en péril s'ils doivent se stationner plusieurs mètres plus loin. Les vignettes, précise-t-il, sont attribuées sur l'avis d'un médecin. Les personnes en fauteuil roulant sont particulièrement à risque dans un stationnement pouvant passer inaperçu dans un rétroviseur, dit-il. D'autres ont un handicap invisible si elles ont des problèmes cardiaques ou respiratoires, par exemple. Mais ce qui le fâche par-dessus tout, c'est lorsqu'il entend des commentaires déplacés ou qu'il voit des automobilistes garés illégalement sur son lieu de travail, qui est pourtant un institut de réadaptation physique pour handicapés. Même dans les centres hospitaliers où tu penserais que les gens vont se garder une petite gêne, s'offusque-t-il. La directrice générale de l'Office des personnes handicapées du Québec s'étonne encore que 30 ans après l'arrivée des stationnements réservés au Québec, ils ne soient toujours pas plus respectés par les automobilistes. Ça devrait être un réflexe, plaide Anne Hébert. C'est un problème récurrent chaque année, on est toujours un peu étonné, observe-t-elle déçue. Pour une personne handicapée, être plus près de la porte est souvent primordial pour sa santé et sa sécurité, rappelle-t-elle, mais rien n'empêche une personne en bonne santé de marcher un peu plus si elle se stationne plus loin. Elle ajoute qu'encore très peu de Québécois ont une vignette pour leur permettre de se garer dans les endroits réservés. On est bien loin du bar ouvert auquel certains semblent croire. La Société de l'assurance automobile du Québec souligne d'ailleurs qu'en date de décembre 2016, il y avait 161 018 vignettes de stationnement pour personnes handicapées en circulation, ce qui représente moins de 2 % de la population québécoise. En entrevue au téléphone, c'est Gaëlle Ouellette, directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. Bonjour, Madame Gaëlle.
Bonjour.
Est-ce que je peux vous Vous appelez Gaëlle tout simplement?
Ah ben oui, tout à fait.
Alors, vous avez vu en prévisionnement le film Élie Mistral gagnant qui suit des enfants gravement malades, un film réalisé par Anne Dauphine Julien. Alors, je l'ai vu moi aussi et
oui.
Je voulais, Gaëlle, que vous nous racontiez le synopsis d'abord et avant tout.
Ben écoutez, c'est un film très touchant qui suit 5 enfants. Anne, Camille, Charles, Imad et Toute Douale, qui ont entre 6 et 9 ans là, à peu près, et puis qui ont malheureusement là, des maladies. La plupart sont c'est des maladies rares, en fait.
Sérieuses.
Quand même assez graves, oui, sérieuses, qui demandent beaucoup de soins et de traitements. Et la réalisatrice les a suivis dans leur vie quotidienne, on peut dire. Donc, on les voit chez eux, à l'école, jouer. On voit c'est quoi leur passion, leurs occupations. Et on les voit aussi là, à l'hôpital, dans leurs soins, quelquefois.
Mmh. Alors, c'est sa manière d'aborder la maladie chez les enfants. C'est de les laisser vivre devant la caméra, finalement.
Et c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est vraiment pour qu'on se rende compte de deux choses, je dirais, que c'est des enfants comme d'autres.
Hein? Oui.
mais aussi, qu'est-ce qui les rend particuliers du fait de vivre avec ces maladies.
Mm-hmm. Et parlez-nous donc de la réalisatrice du film. Quel a été son intérêt dans cette réalisation, sa motivation?
Ben, Madame Julien, que j'ai eu le plaisir d'entendre après le visionnement du film, puis d'aller dire bonjour. En fait, on la connaissait déjà pour un livre qu'elle a écrit qui s'appelle « Deux petits pas sur le sable mouillé » parce que c'est son histoire, parce qu'elle a eu des enfants avec une maladie dégénérative grave, fatale. Donc, le livre, c'est qu'elle avait déjà perdu une petite fille et puis depuis, il n'y a pas si longtemps, elle a perdu une deuxième fille.
Oh non.
Une maladie comme ça. Alors, donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien cette réalité. Elle est journaliste. C'est même quelqu'un ici au Québec qui a dit qu'elle devrait peut-être faire un film. Puis,
quelle belle idée.
C'est sa première... Pardon?
J'ai dit, quelle belle idée.
Oui. Puis, c'est sa première fois
réalisation.
Là, qu'elle réalise, là, qu'elle est réalisatrice.
Elle avait donc des exigences pour réaliser ce film-là.
Oui, moi je pense que, étant donné qu'elle vivait cette réalité-là, je pense qu'il y a juste elle ou une mère comme elle qui pouvait avoir la sensibilité de au niveau là, de comment approcher les enfants puis leur famille. Donc, elle a demandé que la caméra soit au niveau des enfants.
Mais on dirait qu'il n'y en a pas de caméra. Les enfants sont plus naturels que naturels.
Tout à fait. Puis aussi, c'est parce qu'une de ses exigences, c'est pas de grosse équipe, parce que c'est un tournage professionnel. Hein, c'est un film aussi au niveau cinématographique,
ah oui,
aussi bon que n'importe quel film de grande distribution. Mais elle a exigé, donc, petite équipe, mais en fait, je pense que c'était juste le caméraman et elle. Elle voulait pas que ça ressemble à un documentaire où on raconte c'est quoi la maladie tout. Fait qu'il n'y a pas de voix off, d'entrevue formelle de personne, ni des enfants, ni des parents.
Non.
Les parents sont là. Puis,
les parents sont là, le personnel médical sont auprès des enfants, mais ils sont dans l'action, ils font pas de témoignages.
Exactement. Donc, c'est vraiment comme nous, hein? Ça nous permet, je sais pas si vous avez cette sensation-là, ça nous permet de rentrer dans les différentes facettes de leur vie, puis ça n'a pas l'air du voyeurisme.
Pas du tout, c'est fait avec énormément de finesse et d'intelligence. Et pour vous, Gaëlle, qui travaillez avec ce sujet, est-ce que le film peut servir d'outil de sensibilisation? Je pense que vous allez me répondre oui.
Oui, vous en doutez. Hein? Écoutez, moi-même, là, qui n'ai pas eu un enfant avec une maladie grave comme ça, mais étant donné qu'on parle à beaucoup de parents qui nous appellent, qui nous contactent, je connais un peu leur réalité, mais là, ce film-là le montre vraiment. Là, c'est sûr, il faut, si on vit pas avec ça, on n'a pas, on connaît pas toute l'ampleur, puis même la joie et les expériences touchantes qu'il peut y avoir. Donc, le film permet de voir ça. Ça permet de voir aussi un côté là, que moi, je trouvais que c'était bon, peut-être de sensibiliser d'autres personnes, même le milieu médical, la population générale. On voit les parents qui doivent faire des interventions médicales tous les jours, hein, à leurs enfants, puis ça, ça, c'est, tu sais, quand on dit toute la routine, l'école, les devoirs, les repas, ben ça, ça s'ajoute. Et puis, c'est quelque chose de voir ça,
ah
là.
Oui, tout à fait. Puis dans ce film-là, il y a toutes sortes de perles qui sont dites par les enfants. J'en ai pris en note, entre autres, il y en a un qui dit « Quand on est malade, ça n'empêche pas d'être heureux. » Je pense que rien m'empêche d'être heureux. C'est un garçon qui a un cancer très, très sérieux, très grave.
Ouais.
Et c'est ça, c'est un direct au cœur, ce film-là, je trouve.
Oui, oui, tout à fait. Il y a des perles comme ça, les enfants. On voit que faut pas s'imaginer que c'est le drame tout le temps. C'est des enfants qui sont évidemment bien accompagnés, puis accompagnés dans l'explication de
oui,
ce qu'ils
oui.
disent. Donc, ils disent des choses comme ça, puis ça fait partie de leur vie.
Alors, parfait, Gaëlle. Et je voulais aussi souligner que le cinéma Beaubien et MK2 Mile End ont le plaisir de s'associer à votre regroupement, Regroupement québécois des maladies orphelines, pour une soirée spéciale au profit de l'association. Donc, on peut voir le film en primeur jusqu'à un certain point, en avant-première, puisque le film prend l'affiche le 22, un petit peu partout au Québec, mais au Beaubien, le jeudi 21 septembre, 19h, et tarif unique, 10 $ par billet, 100% des revenus seront reversés au Regroupement québécois des maladies orphelines.
Oui, tout à fait. C'est nous qui avons le plaisir d'être partenaires de MK2 Mile End du cinéma Beaubien. C'est un beau cadeau. Puis donc, j'invite les gens à venir nous voir et voir le film.
Ah oui, Courrézy, Élie Mistral gagnant qui prend l'affiche vendredi, je le répète, 22 septembre, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec. On va se laisser avec une petite musique qui fait partie du film, Gaëlle. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être en entrevue avec nous aujourd'hui.
Merci à vous. Bonjour.
Bonjour. Bon succès au film.
Merci.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Les Mistral gagneront.
La Joujoutèque Farfouille, qui célèbre son 30e anniversaire de fondation cette année, est la plus grande bibliothèque de jouets de la Naudière. Louer des jouets, y avez-vous déjà pensé? C'est un article dans l'action.com. C'est un concept qui existe ailleurs, explique la coordonnatrice Audrey Renaud. Mais normalement, ce genre de service est offert dans les maisons de la famille, soit des locaux beaucoup plus petits qu'ici. La Joujoutèque a pour particularité de tenir un très grand inventaire et elle ne fait pas partie d'un groupe, c'est une entité indépendante qui a son propre conseil d'administration. Des jeux de société, des vélos pour les tout-petits, des trottinettes, des camions, des maisons de poupées, des châteaux, des marionnettes et bien plus. L'établissement situé au coin des rues Saint-Louis et La Valtrie est une véritable caverne d'Ali Baba pour les enfants. Très colorés, les lieux disposent à la fois d'items usagés et neufs. C'est la première fois qu'on dépense autant pour du neuf, mais parfois, ça fait du bien de proposer de nouveaux jouets qui n'ont jamais été utilisés. Il est important de préciser que tous les emprunts sont lavés et désinfectés lorsqu'ils sont retournés. La formule est simple. Toute personne intéressée à devenir membre doit se prendre un abonnement annuel qui varie entre 25 et 35 $ selon le nombre de jouets qu'elle souhaite emprunter à la fois. Chaque location de 3 à 6 jeux est valide pour une durée d'un mois. Il existe également des forfaits pour les organismes, les écoles et les garderies. Plusieurs bénévoles et intervenants du réseau de la santé et des services sociaux de la Naudière, notamment des centres de réadaptation Le Bouclier et la Myriade, sont à l'origine de la fondation de la Joujoutèque Farfouille. En 1988, le nouvel organisme recevait 250 jouets en don, dont une quarantaine étaient adaptés pour les enfants qui composent avec une déficience intellectuelle ou physique. La mission de la Joujoutèque a changé au fil du temps. Au départ, ça se voulait surtout un endroit où les parents d'enfants aux besoins particuliers pouvaient se procurer des jouets adaptés à bon prix. Car ces jouets coûtent souvent très cher, raconte la coordonnatrice de l'établissement qui accueille aujourd'hui tout type de clientèle. On a encore des jouets adaptés, mais on ne se concentre pas uniquement là-dessus, ajoute-t-elle. Et une autre entrevue, cette fois avec Jean-Marc Laforêt, agent de mobilisation du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord. Bonjour, M. Laforêt.
Bonjour.
Alors, vous êtes avec nous pour nous parler, entre autres choses, de la troisième édition du Salon de l'engagement citoyen et de la première édition du Forum Vivre et vieillir à Montréal-Nord. Mais d'abord et avant tout, quelle est la mission du Centre bénévole de Montréal-Nord?
À vrai dire, nous, au Centre d'action bénévole de Montréal-Nord, nous cherchons à faire la promotion de l'engagement des Nord-Montréalais dans leur communauté. Alors, nous organisons et coordonnons les différentes activités de bénévolat qui s'offrent à eux dans les organismes à Montréal-Nord et aussi ailleurs.
Mm-hmm. Il y a 7 centres d'action bénévole à Montréal.
C'est bien ça, oui, qui sont un peu distribués au travers de l'île.
Et vous offrez aussi le service PAIR.
Oui, c'est bien ça. Je voudrais même, c'est un de nos programmes les plus populaires. Alors, rapidement, c'est un programme où on offre des appels rassurants aux aînés. C'est un programme gratuit que nous offrons et que d'autres organismes aussi offrent, où à chaque jour, du lundi au vendredi, un appel automatisé est envoyé à une personne le désirant pour s'assurer que tout va bien. Et si la personne ne répond pas, au bout de 3 appels, alors nous enclenchons un petit programme d'urgence où nous rejoignons des personnes clés du bénéficiaire pour s'assurer que tout va bien.
Donc, ça fonctionne 5 jours sur 7.
Exactement, oui.
Et parmi vos activités, vous allez tenir la 3e édition du Salon de l'engagement citoyen et la 1e édition du Forum Vivre et vieillir à Montréal les 27 et 28 septembre. Ces 2 événements se tiennent au même endroit?
Exactement. C'est des événements qui se parlent beaucoup, qui ont lieu au même lieu sur la place Bourassa pour s'assurer qu'il y a un dialogue entre les 2 missions qui sont pas très, très différentes une de l'autre. Au niveau du Centre d'engagement citoyen, comme le nom le dit, nous cherchons à faire la promotion de l'engagement. Alors, différents kiosques d'organismes sont présentés afin de faire la promotion des différentes offres des bénévolats. Et le Forum, lui, cherche à venir réfléchir sur l'enjeu du vieillissement à Montréal-Nord qui est souvent laissé pour compte. Et vu que engagement citoyen et vieillissement vont souvent de pair, c'est une belle occasion pour nous de faire une pierre deux coups.
Mm-hmm. Et ça va se passer donc dans un centre commercial. Vous avez parlé de Place Bourassa. C'est bien le centre commercial qui est dans Montréal-Nord?
Exactement, oui.
Oui?
Oui, au 6000 Henri Bourassa Est.
Une 40aine de kiosques. Quel genre de kiosques? Vous avez parlé d'engagement?
Ah ben écoutez, si je vous donne quelques noms, alors on a des organismes comme la Société canadienne de l'Alzheimer, tel aîné, la Corderie. Alors ce sont vraiment des organismes extrêmement diversifiés qui jouent sur plusieurs niveaux, sur plusieurs domaines et ils ont tous le point commun d'être à la recherche de bénévoles.
Mm-hmm. Et le forum sur le vieillissement, pardon, il va y avoir une conférence là qui va être réalisée par 2 personnes. Est-ce que tout le monde est invité ou c'est vraiment pour les personnes âgées, âgées?
Non, alors nous, ça fait partie de la mission du forum d'être ouvert au grand public, car justement, l'enjeu du vieillissement, souvent, quand on entend ça, on a l'impression qu'on parle simplement de la situation des aînés. Mais vieillir, c'est quelque chose qui se fait dès la naissance et on veut sensibiliser les gens à cela. Alors le vieillissement, ça touche aussi les différents stages, les différents moments dans la vie d'un être humain. Et je vous dirais que la programmation cherche à toucher à cela. La conférence auquel vous faites des références de l'auteur Paul Lebel et Valérie Lemieux de la Direction de la Santé publique touche la participation citoyenne des aînés, mais pour le reste, on cherche vraiment à mettre de l'avant l'intergénérationnalité dans les démarches au sens très large entre organismes et différents citoyens.
Il n'y a pas d'âgisme ni d'un bord ni de l'autre.
Ah non!
Ben, justement, vous avez mis sur pied une joute d'improvisation intergénérationnelle.
Oui, c'est bien ça, oui. Qui aura lieu le 27 au soir, alors mercredi 27 de 5 à 8 heures. Et c'est justement dans un but de venir décloisonner l'idée du vieillissement. Alors, les thématiques de la joute d'impro auront un trait avec l'idée du vieillissement, mais c'est une façon d'avoir des équipes ayant des aînés, des personnes racisées, des personnes qu'on pourrait dire entre 2 âges, pour venir justement mettre de l'avant que vieillir, c'est quelque chose qui touche à tout le monde. Et le but, c'est d'avoir une activité de lancement dans un cadre ludique et je crois qu'un match d'impro réussit bien à rentrer dans ces différents objectifs.
Bien, on ira faire un tour. Jean-Marc Laforêt, merci de nous avoir donné toutes les informations, je crois, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter. Est-ce que vous avez un site Internet si on veut avoir justement plus de détails sur, l'heure, le lieu, etc.?
Exactement. Mais écoutez, deux façons de le faire, par le site web du Centre d'action bénévole, soit cabmtl-nord.org, et aussi sur notre page Facebook à Centre d'action bénévole, vous trouverez l'invitation à nos différents événements et je vous invite à venir en grand nombre.
Bien, je vous remercie. Bon salon, puis à la prochaine.
Merci. Merci de m'avoir invité.
Au revoir.
Au revoir.
Plus d'un an sans ORL dans la péninsule et la région Chaleur. Un an après le départ des deux otorhino-laryngologistes ORL de Bathurst, qui desservaient aussi la péninsule acadienne, le réseau de santé Vitalité ne leur a pas encore trouvé de remplaçant. C'est dans acadienouvelle.com. Les docteurs Guy Tremblay et Marie-France Stevenson ont quitté leur pratique à Bathurst, respectivement en avril et juillet 2016, pour continuer leur carrière au Québec. Ils étaient spécialisés dans la physiologie et les affections du nez, des oreilles et de la gorge. Avant même leur départ, le réseau Vitalité a fait paraître une offre d'emploi pour combler le vide sans succès pour l'instant. Le réseau de santé Vitalité tente toujours de recruter de pourvoir deux postes vacants d'otorhino-laryngologiste à Bathurst. Pour le moment, les patients n'ont malheureusement d'autre choix de se déplacer dans d'autres régions s'ils désirent recevoir ces services. Nous poursuivons toutefois nos efforts de recrutement et avons espoir que cette situation regrettable sera de courte durée, a indiqué Gilles Lantaigne, le président directeur général du réseau. Gabrielle Burke-Vienno, une citoyenne de Bathurst, a subi 3 chirurgies pour sa surdité, dont 2 accomplies par le docteur Tremblay. Elle s'inquiète non seulement pour sa situation si jamais elle a besoin d'un ORL, mais pour celle des autres. 4 générations dans sa famille ont d'ailleurs eu recours au service d'un ORL. C'est un service très important dans notre région parce que ce n'est pas toujours facile de se déplacer en dehors de sa ville. Je commence à être âgée, confie Mme Burke-Vienno à l'aube de ses 78 ans. Si ma condition empire, je ne sais pas ce que je vais faire. Mon audiologiste me dit que si je perds une miette de plus, je ne pourrai pas porter d'appareil auditif. Tout de suite, je porte les appareils les plus puissants et les plus profonds et je ne m'imagine pas non plus mon quotidien sans ça, explique celle qui réside à la résidence Le Royal. Les spécialistes de ce domaine les plus proches de la région Chaleur sont situés à Campbellton et à Miramichi, à environ 1 heure de route. Le premier comité interministériel du handicap du gouvernement Macron promet une hausse de l'allocation adulte handicapé, c'est dans le figaro.fr. La revalorisation de l'allocation adulte handicapé AAH, très attendue en France par les bénéficiaires et qui devrait intervenir en 2 temps à partir de 2018, doit être annoncée demain à l'occasion du premier comité interministériel du handicap, CIH, du quinquennat à Matignon. Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait promis d'augmenter à 900 euros. L'allocation adulte handicapé, 900 euros, équivaut à environ 1 325 $ canadiens, dont le montant maximal est actuellement de 810,89 euros par mois pour une personne seule. Le premier ministre Édouard Philippe avait confirmé en août que l'AAH augmenterait dès 2018 de façon assez massive. Selon un député République En Marche, membre de la Commission des finances, les bénéficiaires de l'AAH auront un premier gain en 2018 et le seuil des 900 euros sera atteint en 2019. Le niveau envisagé est d'ores et déjà jugé insuffisant par les intéressés. Éric Michels, à l'origine d'une pétition sur change.org signée par plus de 140 000 personnes, dit vouloir une allocation adulte handicapé au minimum au niveau du seuil de pauvreté, soit proche de 1 000 euros par mois. Une trentaine de personnes s'étaient rassemblées la semaine dernière près de l'Assemblée nationale pour porter cette revendication et protester contre la prise en compte des revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH. Pour se mettre en couple, déjà, il faut trouver quelqu'un. Ensuite, trouver un logement adapté et après dire à la personne « Maintenant, je vais vivre à tes crochets parce que moi, je n'ai rien ». Ça bloque l'amour, a regretté auprès de l'AFP, l'Agence France-Presse, M. Michel, devenu handicapé moteur à la suite d'un syndrome qui l'a touché il y a 3 ans. les ressources ne sont que l'un des sujets de préoccupation des personnes handicapées. Les associations citent également l'accessibilité des transports et lieux publics, l'accès aux soins, la scolarisation ou encore l'emploi. L'Association des paralysés de France attend que le gouvernement dévoile la feuille de route de sa politique du handicap pour les 5 années à venir. Elle souhaite que soient levées les inquiétudes suite aux premières orientations du gouvernement, diminution des contrats aidés, baisse des aides pour le logement, baisse des dotations aux collectivités locales ou encore allègement des normes dans les constructions de logements. On a des retours de personnes dont les contrats aidés n'ont pas été renouvelés ou qui ont appris leur suppression quelques jours avant leur prise de fonction, souligne auprès de l'AFP Arnaud de Broca, secrétaire général de la FNAT Accidentés de la vie, qui désire savoir quelle politique de l'emploi l'État veut impulser pour les personnes handicapées. Plutôt qu'un catalogue de mesures à la Prévert qui ne serait pas suivi d'effet, il attend du comité interministériel du handicap une volonté politique avec une implication de tous les ministères, une méthode de concertation et des axes de travail avec des moyens budgétés dès le projet de loi de finances de 2018. Retour sur la programmation d'activités de l'automne 2017 du RAM. Pilates débute le 21 septembre, c'est jeudi, donc tous les jeudis pendant 10 semaines de 10h à 11h30, animé par Christiane Rosen. Coût $30. Vous pouvez vous inscrire le 19 septembre. Nombre de participants minimum 12. Alors, un cours de Pilates, je vous décris ce que c'est. Ça se compose d'échauffements articulaires qui préparent au renforcement musculaire de chaque partie du corps, des abdominaux et des dorsaux. Les exercices qui assouplissent et tonifient tout le corps permettent d'acquérir un bon maintien corporel, tandis que les étirements exécutés avec la conscience de la respiration apportent bien-être et détente. Cette activité se pratique simplement avec des vêtements confortables sur un tapis. Et ça complète les paractualités de ce mardi 18 septembre 2017. Merci à mon équipe, à la recherche Anne-Laure Janson et à la technique Jean-Sébastien Laliberté. Ici Hélène Denis, on se retrouve demain. Passez une belle journée.